On manque de familles d'accueil chez nous, Carole. Mm-hmm. Et il y a eu une nouvelle qui a été publiée dans le quotidien cette semaine. On manquerait à peu près d'une dizaine de familles d'accueil. On tient des séances d'information. On veut recruter des familles d'accueil. Ça prend quoi pour être famille d'accueil en 2020? C'est-tu vrai que c'est très payant d'être famille d'accueil? Quels sont tous les critères que ça prend pour être famille d'accueil? On a plein de questions à poser et on a la chance, Carole, d'avoir avec nous ce matin M. Richard Morin. M. Morin est chef de service à l'hébergement au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Morin.
Bonjour, M. Arcand. Bonjour, Carole.
Bon matin.
Alors, dites-moi, M. Morin, comment ça fonctionne en 2020 pour être ou devenir famille d'accueil?
En fait, pour devenir famille d'accueil, il faut d'abord postuler, hein, offrir sa candidature. La meilleure façon de le faire, c'est sur le site internet santésadlac.gouv.qc.ca. Ensuite, s'ensuit un processus d'évaluation qui commence par des soirées d'information, des soirées de mise en situation, donc une soirée par situation, et ensuite une évaluation des normes physiques. Donc, on se présente à votre domicile, on va vérifier les normes physiques. Naturellement, on vous en a entretenu de ces normes-là avant, donc vous êtes déjà en mesure de déterminer si la plupart des normes physiques sont respectées. Et par la suite, il y a une évaluation psychosociale qui est effectuée auprès du couple ou de la famille pour déterminer s'ils se qualifient pour être famille d'accueil.
Est-ce qu'une personne seule célibataire peut devenir famille d'accueil?
Absolument, madame. Une personne seule, un couple traditionnel, un couple homosexuel, tous se qualifient pour devenir famille d'accueil au Québec.
Est-ce qu'une famille d'accueil peut mettre certaines conditions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire « ben moi j'aimerais avoir un enfant plus jeune » ou « je veux pas d'adolescent » ou vice-versa, est-ce que la famille d'accueil a un mot à dire?
Absolument, absolument. Après le processus d'évaluation, on doit signer une entente avec chacune de nos familles d'accueil. Et dans cette entente-là, on va spécifier donc la clientèle qu'on veut héberger et le groupe d'âge à lequel on se prédestine. Et on est capable de cibler. C'est sûr que si la personne veut avoir être capable d'héberger un enfant de 2 ans avec les yeux bleus et les cheveux blonds, ça va être plus compliqué de faire l'opérage. Mais on demande d'avoir quand même une certaine latitude. Mais certaines familles d'accueil se destinent à avoir des enfants de l'âge préscolaire, par exemple. D'autres préfèrent des enfants qui vont à l'école ou des adolescents. Effectivement, on respecte ce choix-là.
Dans les critères, là, le premier, est-ce que c'est d'adorer les enfants?
Ben, je pense que ça va de soi. Si on n'aime pas les enfants, je pense que ça serait difficile d'être...
Non, mais il y a une différence entre aimer les enfants puis les adorer, là, parce qu'il y a des parents qui adorent les enfants, là, tu sais. Il y en a qui n'en ont jamais
eu. Ben, moi, je pense que c'est d'avoir de l'amour à donner tout court à un enfant, là.
Voilà, il faut tout ça, il faut de la disponibilité, il faut faire preuve de patience, de tolérance, l'absence de jugement. Les enfants qu'on leur confie sont souvent des enfants qui ont vécu des choses pas faciles, des enfants qui présentent des difficultés, donc la disponibilité en ce sens est importante pour être capable de donner le service dont cet enfant-là a besoin, d'aller au rendez-vous, parfois des rendez-vous médicaux avec les professionnels, des fois c'est des rendez-vous au niveau judiciaire, donc accepter de collaborer avec les intervenants, accepter de collaborer avec les parents.
C'est comme devenir parent, en quelque sorte.
C'est devenir parent, effectivement, parent substitut, mais on est le deuxième parent, puisque dans la plupart des situations, le parent d'origine, le parent biologique, reste dans la vie de ces enfants-là. Et faut que nos familles d'accueil soient capables de collaborer avec ces parents-là en faisant le preuve de le moins de jugement possible. C'est pas toujours facile, parce que certains parents font le choix ou acceptent volontairement de confier deux enfants. Pour d'autres, c'est plus une situation qui est amenée par la DPJ, voire le tribunal. Mm-hmm. Donc, il faut être capable de collaborer avec l'ensemble des intervenants et également les parents des enfants qu'on leur confie.
Est-ce qu'on priorise ne pas séparer les frères, les sœurs, puis les envoyer dans une même famille?
C'est une préoccupation constante de l'ensemble des intervenants qui gravitent autour des enfants. On essaie toujours d'éviter de séparer les fratries. Vous comprendrez que des fois, c'est pas facile. Des fois, on fait des petits miracles aussi. On a des intervenants qui sont très engagés, qui travaillent très bien. Et on fait tout notre possible pour éviter de séparer les fratries.
Naturellement, c'est une job, excuse-moi Louis, oui. C'est une job 365 jours par année, là, on va se le dire. Bon, la question qui tue, c'est-tu payant? Dans le sens, est-ce qu'on doit débourser ou il n'y a pas
payé.
De frais non, pour la famille d'accueil?
Non, mais puis la question se pose. Là,
ben
puis,
oui.
Est-ce que c'est effectivement payant? Là,
est-ce que c'est payant?
C'est payant pour le cœur.
Le cœur. Mais écoutez, ce qu'on dit à nos familles d'accueil, c'est aujourd'hui, maintenant que les familles d'accueil sont représentées par une association et ont une entente collective, hein, les familles d'accueil, entre guillemets, sont syndiquées maintenant. Donc, depuis l'avènement de cette loi-là, la loi sur la représentativité des ressources, les familles d'accueil ont bonifié substantiellement leur rétribution. Cette rétribution-là est déterminée en fonction d'une classification, donc des services à rendre à l'usager. Plus les services à rendre sont importants, plus la rémunération est élevée. Et je dirais aujourd'hui, en 2020, une famille d'accueil qui a 2-3 usagers, 2-3 jeunes, peut facilement avoir un salaire qui se compare avantageusement au salaire moyen là qu'on peut retrouver ici dans la municipalité, par exemple.
Mais donnons un exemple, pour que ce soit concret pour les gens qui nous écoutent. Là.
Ben, y a une allocation pour les vêtements, je pense.
Non, mais ça, je comprends que les dépenses de l'enfant sont payées, là, mais au niveau salarial, là, un couple, là, puis mettons que la dame veut rester à la maison, puis veut prendre 2 enfants, puis mettons que ces 2 enfants là, de 10 et 8 ans, là, combien peut être le salaire?
Bien, selon les services à rente à l'usager, le salaire peut être, je sais pas, 15-20 000, puis peut-être un peu plus si les services sont plus importants pour une couple de place, puis ça, c'est dans le minimum, là.
OK. Qu'est-ce qui...
Oui. Je vous dirais, M. Arcand, je vais même préciser, le salaire n'est pas la raison première qu'une personne devrait devenir famille d'accueil. Oui, aujourd'hui, on est capable de gagner notre vie en étant famille d'accueil. On est beaucoup mieux rémunéré, la rétribution est beaucoup meilleure qu'avant, mais je pense que c'est en fonction du cœur qu'il faut faire ce travail-là.
Moi, la question que je me pose, on est en manque de ressources, le côté psychologie, travailleur social, etc., etc. Quelqu'un qui décide de devenir famille d'accueil, habituellement, reçoit des enfants, excusez-moi le mot, mais en parenthèse, un peu poqués de la vie. Est-ce qu'on a un accès privilégié à ces ressources-là?
Bien, chaque enfant qui est en situation de placement fait l'objet d'un suivi individuel d'un intervenant. Donc, il y a un travailleur social qui est associé à chaque enfant. Et si l'enfant nécessite des besoins particuliers, il y a d'autres besoins qui peuvent être mis en place. Donc, un service de réadaptation, un éducateur qui peut supporter la famille d'accueil ou des services. Puis bon, les services sont mis en place alentour de l'enfant pour effectivement, lorsqu'il y a des retards de développement, par exemple, de tendre à les diminuer, ces retards de développement-là.
Je vous écoute, M. Morin, puis on comprend bien que, évidemment, être famille d'accueil, c'est un don de soi. À ce moment-là, quand on donne, on s'attache. Et à ce titre, est-ce que c'est pas la chose la plus difficile pour les parents là, qui deviennent famille d'accueil, c'est de voir se séparer d'un enfant là, dont on s'occupe depuis déjà quelques années?
Effectivement, c'est pour certains, c'est un deuil à faire lorsqu'un enfant quitte le domicile à lequel ils se sont attachés. Pour certains, ils continuent d'avoir
des liens
un petit peu ensemble, ils échangent aussi des choses comme ça. Mais c'est aussi la satisfaction d'avoir contribué au développement de cet enfant-là, au bien-être de cet enfant-là. Et on peut qu'espérer que nos enfants puissent retourner chez leurs parents, puis que la situation parentale, la situation familiale d'origine se soit résorbée, puis comme famille d'accueil, on a contribué à ce succès-là.
Il y a des familles d'accueil aussi qui décident d'adopter lorsque c'est permis de le faire, parce qu'il y a une option pour ça, je pense.
Effectivement, on a ce qu'on appelle des banques mixtes. Donc, c'est des gens qui acceptent de recevoir des enfants qui pourraient devenir un candidat à l'adoption. OK, c'est l'adulte qui doit quand même courir le risque que cette adoption-là ne se concrétise pas, mais on oriente dans ces familles-là des enfants qui ont un potentiel, donc le potentiel d'adoption est plus grand.
Vous tenez des séances d'information, je le soulignais d'entrée de jeu. C'est quand, c'est où?
Ben aujourd'hui, on fait 2 petites séances d'information pour les gens qui voudraient poser des questions, les gens qui voudraient savoir un peu plus qu'on vient d'en parler. Donc, ces séances d'information-là ont lieu à 11h15 et 12h15 ce midi, donc au monastère des Augustines. Le monastère des Augustines, pour ceux qui sauraient pas c'est où, c'est tout simplement dans le stationnement de l'hôpital, le bâtiment en face de l'entrée du stationnement. Donc, on vous accueille ce midi pour vous donner de l'information pour ceux qui auraient de l'intérêt à devenir famille d'accueil.
Voilà. Donc, c'est à Robertval, bien sûr. Merci beaucoup, M. Morin. C'était très intéressant.
C'était un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Richard Morin, donc, qui est le chef des services à l'hébergement pour les familles d'accueil au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ma musique, mon monde.
Robertval 99.5.
Planète.
Une radio.